Bonjour et bienvenue au podcast Parole inclusive. Je suis votre animatrice Vanessa Neal. Nous enregistrons aujourd'hui dans le hangar des métiers de l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal lors de l'événement Horizon organisé par CAMAC, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale du Québec. Tout d'abord, Horizon est un événement qui souhaite réunir les membres de la communauté sous-représentée, les centres de formation, les représentants d'entreprise, ainsi que les personnes intéressées à intégrer le milieu de l'aérospatiale et l'aéronautique. À cette occasion, la journée est dédiée au partage, à la découverte, l'expérimentation et la projection au travers de plusieurs activations immersives, telles des ateliers, conférences, animations, visites et bien plus encore. Le tout dans le but d'aller plus loin ensemble, propulser de nouvelles approches, co-construire le futur et regarder vers l'avant. Et c'est donc avec cette belle introduction que je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs, à ce tout premier enregistrement de Paroles inclusives. Ce podcast est dédié à faire valoir l'inclusion, la diversité et l'innovation dans les métiers de l'aérospatiale et démontrer la force de la diversité au sein des entreprises du domaine. Chaque enregistrement souhaite explorer une thématique de l'EDI, c'est-à-dire l'équité, la diversité et l'inclusion dans le domaine de l'aérospatiale. Afin de partir le bal, notre premier sujet de discussion s'agit aujourd'hui des fondements de l'EDI dans le milieu professionnel. Je suis accompagnée d'intervenants et de pairs du milieu pour décortiquer ce sujet. Je vous présente donc tout d'abord Olivia Baker de la Fondation Émergence. La Fondation Émergence est un organisme à but non lucratif qui lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui a pour mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle, ainsi que la pluralité des identités et des expressions de genre. Cela inclut, mais ne se limite pas aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, binaires et non-binaires, queer, intersexe, bispirituel, 2S, asexuel et à l'ensemble des réalités non-binaires. Olivia va offrir une formation pro-alliée sur l'inclusion des personnes LGBTQ+, en milieu de travail aujourd'hui à notre événement Horizon CAMAC. Bienvenue Olivia.
Merci. Merci de l'invitation.
À la gauche d'Olivia, il y a Marie-Isabelle Gendron, spécialiste technique en moteurs turbines d'avions et hélicoptères chez Pratt & Whitney, un fabricant de moteurs de turbines à l'échelle internationale. Elle est également gouverneure de la Fondation Émergence et thérapeute en relations d'aide. Et finalement, à ma gauche ici, nous avons Suleymane Guissé. Est-ce que j'ai bien dit votre nom?
Oui,
yes.
Bien ça.
Chargé de projet à la formation chez CSMO et l'ESA.
ESAC, Économie sociale et action communautaire.
Yes! Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre organisme ou de vous-même?
Ben, en fait, on est l'équivalent du CAMAC, mais notre secteur, c'est l'économie sociale et l'action communautaire. Donc, c'est vraiment promouvoir la main-d'œuvre, faire la même chose, en fait, que le CAMAC fait dans le cadre de l'aérospatiale. Nous, on le fait en économie sociale. Donc, ce qui concerne les OBNL et les COP et l'action communautaire, donc tout ce qui est le milieu communautaire et comme le CAMAC, les sujets d'équité, et d'équité, diversité, d'inclusion nous intéresse au plus haut point. Et puis, j'en suis le responsable, en fait, de ce dossier-là aussi. C'est moi, ESAC. Voilà.
Fantastique. Eh bien, bienvenue, Suleymane. Et Marie-Isabelle, je vous ai présenté tantôt. Est-ce que vous parlez un peu plus de votre métier?
J'ai travaillé, en fin de compte, toute ma vie chez Pratt & Whitney Canada. J'étais très choyé. J'ai fait plusieurs métiers. Et j'ai fait de la formation, entre autres, pendant 15 ans, monté des formations aux clients, mécanos, directeurs de maintenance, pour des moteurs à turbines d'avions, d'hélicoptères, et même des génératrices pour les avions. Dans les dernières années, dizaines de dernières années, je suis spécialiste technique. C'est un centre, pas le centre d'appel, pas vraiment un centre d'appel, mais un centre d'aide, numéro 1-800, un centre de service pour dépannage moteur. Fait que c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, nous, on est d'un centre situé à Longueuil. Maintenant, beaucoup télétravail. Et puis, on répond, mais le dépannage moteur. Fait que les mécanos, directeurs de maintenance, ils ont des questions de toutes sortes. Ça peut être des questions très légères, faciles, ou encore, on a quand même une spécialité comme l'avion est cloué au sol à cause du moteur. Fait qu'ils nous appellent, puis nous autres, ben, on a quand même des équipes techniques qui peuvent se déplacer, des mécanos, d'occasion au moteur même pour remplacer le moteur qui doit être réparé. Fait qu'on est là pour les aider à faire du dépannage. On les guide par courriel, par téléphone, pour résoudre le problème le plus tôt possible. Fait que j'ai mon background, en fin de compte, ben j'ai fait beaucoup de mécanique moi-même. J'ai testé des moteurs moi-même, des bancs d'essai sur les avions et de l'enseignement. Fait que j'ai quand même une connaissance du moteur. Fait que moi, j'ai pris une retraite en fin de compte en fin 2019. Mais deux ans après, comme il y a un manque de personnel, on m'a rappelé pour faire des remplacements de vacances. Fait que je travaille comme de façon occasionnelle pour des remplacements de vacances ou de congés, maladies, différentes choses en télétravail.
Wow!
Fait qu'il m'apprécie encore. C'est ce qui est bon à savoir.
Fantastique! Donc, j'imagine des appels à toute heure de toutes sortes.
À toutes sortes. Ça peut être très facile ou ils se trompent de numéro de téléphone puis ils ont un problème, ils ont manqué leur autobus. Mais oui, sur l'aviation, mais c'est des questions de souvent d'interprétation du manuel, de bien connaître les restrictions, les règles en aviation, mais tout doit être écrit quand tu veux inspecter puis dire que le moteur, oui, on peut l'utiliser en vol. Fait qu'on les aide là-dessus, un grand support qu'on donne. Intéressant parce que on a des gens partout autour de la planète. Hein. Des moteurs se retrouvent dans environ, je sais plus combien, mais 190 à 200 pays. Là. Fait que c'est très diversifié. Ouais. On a affaire avec des gens de différentes cultures, différents pays. C'est très intéressant pour ça aussi.
Super. Ben, bienvenue, Marie-Isabelle. Alors, on a nos trois intervenants ici. Nous allons donc entamer un grand sujet ce matin et je souhaitais d'abord commencer par décortiquer la définition de l'EDI dans le milieu professionnel. Donc, je vais vous lire une définition puis je vais demander à mes intervenants s'ils ont quelque chose à ajouter ou quoi que ce soit. Si vous êtes d'accord avec ça, on va avancer de là. Alors, l'équité se réfère à l'idée que tous les employés doivent être traités de manière égale et équitable, sans discrimination. La diversité concerne la présence de personnes de différents horizons, de différentes cultures et de différentes expériences au sein de l'entreprise. L'inclusion se réfère à la capacité de tous les employés de contribuer pleinement à l'entreprise en se sentant valorisés et respectés. Alors, vous êtes bien d'accord avec ça? Hein, Olivia, vas-y.
Oui, ben de façon générale, oui, mais pour l'équité, je pense que je reviendrai un petit peu sur cette définition-là, puis je pense que c'est très important de faire la différence entre l'équité et l'égalité.
Ah!
Souvent, c'est un des trucs qui est le plus, des fois, un peu contre-intuitif quand on parle d'équité en milieu de travail, mais l'équité en milieu de travail, c'est pas de traiter tout le monde pareil. Ça, c'est de l'égalité. Puis quand on traite tout le monde pareil et que les personnes n'ont pas forcément les mêmes besoins, ben, ça finit par faire de la discrimination, même si elle n'est pas intentionnelle. La discrimination, un peu comme quand on parle de harcèlement, c'est au niveau du résultat et pas de l'intention qu'il faut aller voir. Souvent, c'était vous avez peut-être vu déjà ce petit dessin à certaines occasions par rapport à, je pense que c'était Einstein, là, mais je sais plus si c'était lui qui avait dit ça, mais dans le fond, c'est un test d'examen. Dans le fond, vous voyez un professeur qui est assis à son bureau et devant lui, il a toutes sortes d'animaux. Donc un éléphant, un chimpanzé, un poisson rouge, un chien, tout ça, et un oiseau. Il leur dit, pour que le test soit tout le monde pareil, l'exercice, ça va être de monter à cet arbre. Donc là, on est d'accord qu'on traite tout le monde pareil. Est-ce que c'est équitable? Non. Parce que c'est clair qu'un éléphant, un poisson rouge, puis un chien, un chimpanzé, un oiseau, ils vont pas avoir la même chance de réussir. Fait que je pense que c'est ça, quand on parle d'équité, on parle de donner les mêmes chances de réussir et non pas de traiter tout le monde pareil. Ce qui va nous amener dans la notion d'accommodement raisonnable, qui va permettre des fois, en fait, de justement égaliser le niveau pour certains profils.
Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que il y en aurait d'autres qui aimeraient rajouter, Marie-Isabelle?
Ouais, c'est ça. J'ai quelque chose de peut-être pas mentionné. Je vais te partager cet après-midi au panel. Mais, tu sais, moi, côté diversité, mais je suis née dans un corps d'homme pour faire une transition comme femme, tu sais, il y a 10 ans. Puis, c'est quand même pas évident. Plus facile aujourd'hui. Mais, tu sais, j'ai toujours dit, mon cerveau, ma compétence a toujours resté pareille. Fait que pourquoi ce serait difficile, tu sais, de On parle d'accommodement raisonnable. Certains, il y a des ajustements à faire dans une compagnie pour bien accommoder une transition qui n'est pas toujours évidente.
Absolument, absolument.
On veut être traité, oui, plus ou moins égal, mais des fois, il y a des choses à faire différentes pour bien nous intégrer dans notre transition.
Mm-hmm. Est-ce que tu aimerais ça nous en parler un peu plus de cette expérience-là?
Oui, ouais, ça peut s'étirer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Mais non, vitement, moi, j'ai fait ma transition, je dis officielle, c'est officiel parce que c'est quand j'ai rentré à la compagnie Pratt & Whitney Canada en 2014. Moi, j'ai comme une renaissance le 7 octobre 2014, que là, je suis rentré vraiment au féminin, puis qu'on a décidé de m'appeler par mon pronom féminin, Marie. Puis même si... T'sais, dans ces années-là, en 2013-14, on était obligé de faire des opérations, de prendre des hormones. Il y avait des obligations qui sont plus là depuis 2015. Mais malgré tout, la compagnie a décidé de m'intégrer. Puis même si mon nom n'a pas changé officiellement, ils m'ont accommodé. D'une façon, moi, je trouve grandiose, parce que c'est comme ça que j'étais, c'est comme ça que je me sentais. J'ai fait le processus par après, mais même eux, ils ont décidé de m'accommoder, de dire oui. Ils ont même changé une chambre de bain parce qu'ils étaient inquiets, tu sais, une transition. J'étais très, très homme. Ça se fait graduellement, c'est pas une switch. Ils ont changé une chambre de bain pour la mettre neutre, qui était dédiée aux femmes, puis qui ont fait une modification. Fait que tant qu'on parle d'accommodement raisonnable, mais c'était pas juste pour moi. Moi, j'avais pas ce besoin-là. Mais pour les autres personnes qui pouvaient avoir des inconforts, c'est pas évident. T'sais, moi, j'ai commencé un peu comme en 2013, avec l'habillement, en fin de compte. Moi, je me disais androgyne parce que j'étais pas prêt pour aller jusqu'au bout. Si on regarde une photo avant, aujourd'hui, mais les gens qui m'ont pas vu me reconnaissent pas, là, c'est certain. Et surtout, tu sais, la barbe, puis tout, les cheveux, l'habillement, la façon d'être, la façon de marcher, la façon de parler. Il y a eu bien des changements dans ma vie. Mais j'ai eu peur de perdre mon travail. Puis beaucoup de personnes qui font des transitions perdent ou ont de la difficulté à trouver un emploi. Et j'avais un très bon emploi, ma compétence était là. Puis moi, j'avais dit à ma patronne dans le temps que j'avais éduqué, en fin de compte, un peu ce que Olivia va faire cet après-midi, de l'éducation par rapport à toute la diversité humaine. On parle d'LGBT, puis personnes trans. Fait que j'ai comme éduqué, j'ai dû faire une éducation à ma patronne, puis la ressource humaine, amener des livres, des vidéos, parler un peu de ça. Puis c'était des gens ouverts d'esprit, même la thérapeute avait des réticences. Parce que j'étais pas dans les normes. T'sais, on devait absolument prendre les hormones là pour changer de nom. On devait absolument avoir l'opération du bas pour changer la mention du sexe sur nos papiers. Pis c'était un grand processus qui ça se fait pas du jour au lendemain. Puis depuis 2015, on n'est pas obligé de faire ça là. Fait que j'étais comme un peu, je savais que les règlements étaient pour changer, mais j'étais un peu comme dans faille là, tu sais. Fait que ça n'a pas été évident. Ça m'a pris beaucoup d'énergie pour éduquer les gens, l'entourage. C'est ça que j'ai trouvé déplorable. J'avais un cheminement incroyable à faire, personnel, pour me découvrir. Mais je devais éduquer les gens autour. C'est pour ça que, tu sais, j'adore la présentation que Olivia peut faire dans le milieu de travail. C'est essentiel de bien comprendre les enjeux qu'on a à faire au travers de ça. C'est quoi les lois, les règles. Puis, quand j'ai fait ma transition, on a réuni tout le personnel de mon département, une vingtaine, le service à la clientèle. Mais on a fait aussi une lettre pour tout l'entourage parce que j'interagissais avec beaucoup de départements, des spécialistes de différents mentors. Devaient savoir que maintenant, à partir de ce jour, c'est Marie. C'est le nouveau nom. Puis nous, la compagnie a bien fait savoir, on n'accepte pas la discrimination. Puis ils ont dit à mes collègues, mais si vous avez des problèmes, ben on a une thérapeute pour vous. Mmh. C'était pas pour moi.
Wow.
Fait que pour
moi.
Malgré j'en ai consulté, oui. Mais pour moi, c'était un moment grandiose. de pouvoir rentrer cette journée-là. J'en ai encore des émotions aujourd'hui tout le temps. Ça fait 10 ans de ça pratiquement, au mois d'octobre. Puis j'avais donné un défi, ben pas un défi, j'avais dit à ma patronne, j'ai dit, t'as un risque avec moi. Il dit, tu risques d'avoir une meilleure employée. Puis c'est que wow. Les gens ont dit, la Fondation Émergence, on fait une vidéo, puis les gens le disent qu'il aimait mieux travailler avec moi après, parce que mes frustrations étaient plus là. Maintenant, j'étais libre, 2000 livres de moins sur mes épaules. Fait qu'il y a des témoignages que les gens, oui. Il y a eu beaucoup de gens, il y a eu des gens qui ont de la difficulté, que ça a pris des mois avant qu'ils puissent me regarder dans les yeux, tu sais, ou un an avant de capable de me parler de façon authentique. C'est les enjeux qu'on a à faire. Fait que c'est pour ça que notre enjeu personnel est grand, mais l'enjeu aussi d'interaction avec les gens, c'est ce qui est le plus difficile. C'est de pouvoir se faire accepter. Même ma compagnie nous a bien servi. Il y a eu un an d'éducation, pratiquement, là, plusieurs mois. Mais après ça, quand ils ont bien compris, ils ont tout fait pour m'aider. Ils ont même gagné un trophée comme une meilleure intégration au milieu de travail par un organisme de Montréal qui s'appelle l'Aide aux trans du Québec. Fait que, tu sais, j'ai un petit trophée qui est à l'entrée de la compagnie.
Wow!
Je suis bien fière de ça.
C'est un super beau partage. Merci beaucoup, Marie-Isabelle. Puis quelle belle histoire. Je me tourne à Souleymane. Je reviens à... On a eu un beau partage de Marie-Isabelle, mais je reviens ici à la définition de l'EDI. C'est peut-être un peu loin, mais est-ce que vous étiez d'accord avec ce que j'ai décrit ou vous avez des observations?
J'ai des observations et puis donc le témoignage est très intéressant en sens qu'il explique beaucoup d'enjeux justement qu'on vit en ce moment, mais aussi l'évolution même de ces questions-là. Au niveau de la définition, souvent on définit les trois termes, mais qu'en est-il de l'EDI en tant que concept? Ça, c'est important de le faire et c'est rarement fait. L'EDI, en fait, et là, en écoutant le témoignage, moi, j'ai une définition personnelle, c'est l'ensemble des initiatives, des programmes, des actions que mettent en place les organisations dans le but de reconnaître la spécificité de certains groupes, de personnes qui appartiennent à certains groupes qu'on appelle maintenant au fédéral les groupes en quête d'équité et de les inclure. Et de les inclure dans l'organisation. Donc, les inclure, ça veut dire qu'on ne tolère aucune forme de discrimination ou d'exclusion, mais aussi de reconnaître la spécificité de ces personnes-là. C'est ça, l'EDI, et c'est important de les définir au-delà des trois concepts. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on parle d'EDI de fondement, c'est souvent quand on parle d'inclusion aussi, on va l'opposer, en tout cas, on va faire le parallèle avec l'intégration. Et souvent, en sociologie, on va dire que l'intégration, c'est la personne qui va s'adapter à une norme, alors que l'inclusion, c'est-à-dire, c'est la responsabilité de l'organisation de d'inclure les gens. Donc ça, c'est important. Donc, en termes de fondement, c'est-à-dire maintenant, ça met en fait les organisations au cœur, en fait, ça les responsabilise et ça leur demande justement de jouer le rôle. Donc voilà. Et puis donc, en parlant de fondement, on peut dire que l'EDI a des fondements moraux, mais c'est imposé pour des raisons économiques. C'est-à-dire, pourquoi on parle d'EDI beaucoup pour des raisons économiques? Parce que déjà, on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre au Québec. Donc, on parlait de bassins, donc au Québec ou partout en Occident. Donc, il faut élargir les bassins de main-d'œuvre. Donc, si on élargit les bassins de main-d'œuvre, donc ça veut dire qu'économiquement, les entreprises en ont besoin. Donc, les entreprises qui se mettent en avant, c'est pas une critique, mais ils y vont pas seulement de gaieté de cœur, parce qu'il y a une dimension économique qui est là. Donc, mais c'est des questions morales. C'est-à-dire, pourquoi exclure les gens parce qu'ils sont différents? Pourquoi la majorité exclurait des personnes qui appartiennent à une minorité? Et ce qui est intéressant avec l'EDI, je vais terminer parce que je peux le faire en une heure, cette conférence, ou deux heures, mais je ne vais pas aller plus loin. L'EDI, en fait, parce que tantôt j'ai entendu que c'est nouveau, ce n'est pas nouveau. L'EDI date de la guerre de sécession américaine, avec les esclaves qui ont été affranchis et donc se poser la question comment les inclure dans la société américaine. Et donc, certains esclaves noirs vont se dire, ben nous, on veut retourner en Afrique. C'est comme ça que le Libéria a été créé et d'autres disent, on fait partie de la société américaine. Quelle est notre citoyenneté? Comment on va appartenir à cette société-là? Donc, ça, on est dans les années 1865. Maintenant, pendant pratiquement, et ça va être intéressant ce que je vais dire, ça va durer 2 minutes, pendant 100 ans, ça va être finalement, personne ne va prendre en considération cela, et puis donc va revenir la discrimination avec le Ku Klux Klan. Dans les années 60, au Québec, on va parler de révolution tranquille, mais dans les années 60, partout dans le monde, on va noter les décolonisations. En Afrique et au Québec, on va parler de nègres blancs d'Amérique. Donc là, avec la décolonisation, va venir le deuxième mouvement féministe. Et c'est le féminisme des années 60 qui va donner corps à l'EDI. Et l'EDI est toujours lié en fait aux questions donc de féminisme. Souvent ça vient de la race, mais c'est les femmes en fait en l'occurrence qui vont le donner corps. Donc dans les années 60, donc avec le deuxième mouvement féministe. Et puis après dans les années 70, on va noter justement au Québec et tout, donc on va noter l'apparition de ce qu'on appelle l'interculturalisme québécois en réaction avec du multiculturalisme canadien. Donc là on va le noter, donc l'EDI maintenant revient en force dans les avec tout ce qu'on a connu, MeToo, les pensionnats autochtones, Black Lives Matter. Et l'EDI est toujours lié à, va toujours être lié, race, donc ethnicité, donc les personnes noires, avec donc les femmes. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on va noter, c'est pour ça le témoignage est très intéressant. Aujourd'hui, il y a un autre groupe qui est très impliqué, qui est très engagé, et tant mieux, et c'est bien. Et c'est ce groupe-là qui donne force à l'EDI, c'est le groupe LGBTQ+. C'est eux qui sont plus en avant, qui innovent, on parle d'innovation sociale. Et ce qui est intéressant, quand on parle de fondement d'EDI, il y a ce qu'on appelle la loi, parce que tout ça n'est pas nouveau. Il y a la loi sur l'accès à l'égalité en emploi. Je vous le donne à mille. Est-ce que les LGBTQ+, font partie de la loi? Non, ils sont exclus de la loi. Donc, la société est en avant sur les institutions. La première chose au niveau des fondements, c'est de modifier cette loi-là, qu'on n'a pas modifiée. Donc, l'EDI, c'est ça, c'est pas nouveau, c'est une évolution maintenant qui part, en fait, de la race, de l'ethnicité, avec la femme, donc, avec donc le féminisme qui va donner corps à l'EDI dans les années 60. Et maintenant, donc, avec le retour en force de l'EDI, c'est le mouvement LGBTQ+, et tant mieux, qui vient lui donner corps, mais ce mouvement LGBTQ+, si on parle du Québec, n'est pas même au niveau fédéral, la loi sur l'accès sur l'équité en matière d'emploi n'inclut pas ce groupe-là. Et pourtant, c'est le groupe le plus dynamique qui donne plus, on voit avec les fondations émergentes, tout ce qui amène, parce que c'est des groupes qui ont été longtemps exclus et qu'on n'a pas reconnu. Donc, 10 ans, c'est vraiment court là, comparé à ce qu'on dit. Donc, voilà l'EDI. Je vais pas aller trop loin parce que je vais pas me reposer la parole. Voilà.
C'est fantastique, mais merci de faire le lien entre tout ça puis de nous donner une perspective aussi à long terme. Ben, je vous lance une première question là-dessus. Que signifie l'EDI pour vous et pourquoi, selon vous, est-il essentiel dans le milieu professionnel? Donc là, on va se tourner un peu plus spécifiquement dans le milieu de l'aérospatial qui nous amène ici aujourd'hui. Je ne sais pas si, Olivia, tu voudrais commencer là-dessus.
Ben, je peux peut-être parler plus général, pas forcément aérospatial.
D'accord.
Pas forcément mon domaine, mais je laisserai peut-être après Marie-Isabelle qui a plus d'expérience dans ce domaine-là. Mais pour moi, l'intérêt aussi de l'EDI, souvent une des métaphores que j'utilise, je suis très métaphore, moi, c'est la différence entre la culture intensive et la permaculture. Fait que dans la perspective sans EDI, on est dans une perspective de culture intensive où on va avoir un type de culture qu'on va essayer d'exploiter le plus possible pour avoir le plus de rendement. Puis ce qu'on sait de l'exploitation intensive, c'est que généralement, ça ne marche pas super bien sur le long terme. C'est qu'au bout d'un moment, on a un appauvrissement des ressources, puis on se retrouve avec de la terre qui est juste plus exploitable. Puis même si sur le court terme, ça peut donner du rendement, sur le long terme, ça finit par genre juste plus marcher. Alors que si on pense à une perspective EDI où il va y avoir de la permaculture, oui, peut-être c'est des investissements au début. Mais on va être dans une perspective où on va essayer justement de respecter la diversité qui existe dans justement le type de plante qu'on va mettre, par exemple. Et aussi, on respecte que, par exemple, on peut pas traiter une fougère et un cactus pareil. Là. Si vous arrosez pareil un cactus et une fougère, il y en a un des deux qui va pas y arriver. Là. Fait encore une fois, il y a l'idée aussi, puis je pense que c'est un peu cette idée de, justement, en EDI, on essaye d'avoir un jardin de talents diversifiés qui vont chacun avoir leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins spécifiques. Et dans ce cas-là, on imagine justement l'organisme ou le gestionnaire, le CEO, comme justement ce jardinier qui essaye justement de cultiver le vivre ensemble en sachant qu'il y a même des plantes qui vont s'aider mutuellement. On sait qu'il y a des combinaisons de plantes qui marchent bien. Fait que justement, c'est ça que je trouve qui est super intéressant en EDI, c'est de voir tous les ponts qui peuvent être faits entre les différentes communautés par exemple, justement, entre les enjeux féministes, LGBT, personnes racisées, personnes en situation de handicap, il y a plein de choses qui peuvent être faites qui vont bénéficier à plusieurs communautés.
Merci beaucoup. Marie-Isabelle, est-ce que tu aimerais...
Oui, la question est pourquoi c'est important, c'est ça,
Oui, ben, est-ce que ça signifie pour toi et pourquoi c'est important ou essentiel dans le milieu professionnel de l'aérospatiale?
Oui, mais j'ai eu la chance quand même de travailler pour cette compagnie-là, qui est très multiculturelle. On a toujours eu des gens qui viennent de différents pays. J'ai eu accès à ce monde-là, qui est... tu sais, c'est fantastique. T'sais, j'ai voyagé moi-même dans 30 pays pour voir que y a des gens intéressants partout, là. C'est très positif. Puis les gens, comme disait Olivia, on a toutes des idées différentes, des points de vue différents. On vend les moteurs dans plus de 190 pays, ces gens-là, mais faut les reconnaître. C'est des clients tous. Fait que s'ils s'intéressent à nos moteurs, faut s'intéresser un peu à eux autres, je trouve, moi. Ça, il y a deux volets là-dedans. Puis, de reconnaître que les gens ont des religions, des cultures différentes, puis les respecter dans ce qu'ils sont, dans le milieu de travail. Et puis, c'est ça, de façon égalitaire. Puis spécifiquement, moi aussi, dans le milieu LGBTQ, qui a été tellement caché, l'aviation, c'est un milieu d'hommes incroyable. Les femmes de plus en plus s'intègrent, c'est très minoritaire. J'ai pu vivre le féminisme maintenant. Avoir été homme blanc avec tous les avantages de tomber avec une femme, femme trans encore plus difficile. Mais je me rappelle aussi, tu sais, répondre au téléphone, quand ils s'aperçoivent que c'est une femme, il y a une hésitation. Au lieu d'aller directement à d'habitude, ils vont directement avec le problème moteur. Là, il y a une hésitation. Est-ce quelqu'un qui pourrait m'aider sur tel type de moteur? Fait que je dis, ben oui, allez-y. Si y a quelque chose, mais on pourrait s'informer des spécialistes, mais après 40 ans d'expérience, ils vont s'apercevoir assez vite que je suis capable de les aider. Mais il y a un côté dans l'aviation, côté féministe qui est là aussi. Fait qu'on se rend compte que pourquoi? C'est pourquoi que la personne différents sexes ou différentes cultures ne sera pas capable d'avoir les mêmes compétences? Fait que d'après moi, c'est important de faire valoir au sein de l'entreprise qu'on n'accepte pas la discrimination, peu importe, qu'on va valoriser la différence parce que ça amène un échange d'idées différentes, puis sûrement positif. Fait que c'est ça le fondement, moi, c'est que l'entreprise endosse, qui amène de l'avant qu'on endosse la diversité puis qu'on n'accepte pas la discrimination pour favoriser justement le bien-être de chaque employé puis de chaque département pour que les gens se sentent respectés. Mm-hmm. C'est pas juste de le dire, que les gens puissent se sentir respectés dans une entreprise, peu importe leurs différences.
En l'application.
D'après moi, c'est bien important de valoriser ça. Puis ma compagnie avait fait un film sur mon histoire que j'avais apprécié parce que il m'avait filmé une journée pour faire un vidéo de 3-4 à peu près 4 minutes qu'ils ont diffusé ce qu'on appelle un réseau interne d'Internet qui est intranet au travers de toute la corporation dans le temps qui était United Technologies qui contenait dans ce temps-là qui avait 200 000 employés. Fait qu'ils ont diffusé ça puis pour montrer que eux autres y endossaient la diversité d'une personne trans au sein d'une entreprise. On a pu voir quelques commentaires un peu transphobes, mais la compagnie n'a pas accepté ça, puis elle a soutenu les gens pour s'assurer qu'il n'y ait pas de ces commentaires-là. Fait que pour moi, c'est important de soutenir là, mais pas juste de le dire, de le faire.
Merci. Souleymane?
Oui, très intéressant. Pour faire juste le lien, quand vous parliez, il y a deux concepts qui me sont venus à l'esprit. Le concept d'intersectionnalité, ce qui veut dire qu'on subit plusieurs oppressions ou plusieurs discriminations qui soient. Et dans votre cas, ce que je vois, c'est vraiment les biais inconscients. pourquoi on a des biais inconscients qui sont des raccourcis mentaux qu'on se crée parce qu'on se dit, ben, dans le domaine technologique, ben, une femme n'est pas associée à travailler dans ce domaine-là. Pourquoi, par exemple, une personne de couleur aurait des postes de responsabilité? Donc, et là, ça nous amène dans des biais inconscients qui nous poussent à exclure, à discriminer. Maintenant, pour revenir à la dimension RH, en fait, l'EDI, il faut le savoir, la dimension RH n'est pas la seule dimension. La dimension ressources humaines, mais elle est la plus importante. Pourquoi? Parce que quand on parle de ressources humaines, on parle de travail, d'emploi. Nous tous, nous passons 8 heures de notre temps au travail, mais aussi l'emploi nous donne une identité. Des fois, on se définit par notre travail. Donc, ce qui veut dire que très tôt, l'emploi a été vraiment le secteur ou le domaine auquel on a associé l'EDI. Mais l'EDI n'est pas que RH. Quoique les ressources humaines sont plus importantes, sont très importantes dans la vie, dans l'existence des gens. Maintenant, quand on parle d'EDI par rapport aux ressources humaines, ça amène à la responsabilité finalement des organisations d'inclure les gens. C'est-à-dire de les inclure, de s'assurer d'avoir des espaces inclusifs où chacun est reconnu en fait à sa juste valeur. Mais quand on parle de RH aussi par rapport à l'EDI, c'est que pour l'entreprise, et c'est pourquoi les entreprises y sont, ben c'est gagnant. C'est-à-dire ça donne une bonne image. C'est-à-dire on parle d'une bonne image, ça permet de s'ouvrir à des nouveaux marchés. Dans un contexte de mondialisation, on va s'ouvrir dans de nouveaux marchés. Ça permet d'ancrer l'entreprise dans sa collectivité, c'est-à-dire une entreprise qui est représentative de la société, de la collectivité, nous permet justement de vraiment d'être une entreprise qui est là, qui est au cœur, qui est, comme on dit en anglais, the place to be, en fait. Et puis donc l'entreprise au cœur. Donc il y a beaucoup d'avantages. En revanche, quand on parle de RH, et puis donc surtout on est au Québec, il y a beaucoup de PME, c'est que oui, il faut noter aussi deux niveaux. C'est-à-dire pour les grosses entreprises, pour les grosses multinationales, c'est souvent très facile d'y aller parce qu'ils ont les ressources. Et souvent, pour les PME, c'est un peu compliqué. Souvent, moi, je travaille beaucoup avec les PME, ils nous disent, mais par où commencer? Parce qu'ils n'ont pas les ressources. Et l'EDI, il y a deux enjeux, en fait, en ce moment, quand on parle de RH, c'est... les finances, c'est-à-dire avoir les moyens de faire de l'EDI, parce qu'il faut avoir les moyens, un, mais deux, il faut avoir l'expertise. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'experts qui travaillent là-dedans. Là, il y a deux maîtrises qui viennent de se créer au Québec. Donc, l'EDI, en termes de ressources humaines, il faut reconnaître deux choses quand même. C'est très important pour l'organisation. Donc, ce n'est pas pour rien que les organisations y vont. Avec tous les, donc, c'est bon. Diversity is good for business. C'est ça que disent les Anglais, c'est bon pour les affaires. Mais en même temps, ça vient avec des défis. Les défis, c'est de réussir ce virage inclusif-là. Et dans ce virage inclusif-là, pour revenir à l'aéronautique, on va connaître des zones de turbulence. Et quand on va connaître ces zones de turbulence-là, les conflits qu'on va avoir, les préjugés et tout, là, si on ne fait pas preuve de leadership inclusif, l'entreprise lâche. L'entreprise RH, et souvent, c'est les PME. Et donc, le défi, je ne sais pas, dans le domaine aérospatial, s'il y a beaucoup de PME, il faut que les PME puissent être outillées pour pouvoir faire face à ces défis-là. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est que la diversité est incontournable. Elle est incontournable, est une réalité. Et au Québec, au Canada, on a fait, contrairement au Japon, qui a fait le choix d'être une société monoculturelle, c'est pas une critique, mais c'est le Japon qui a fait le choix, il l'assume, donc il travaille jusqu'en 80 ans. Mais au Québec, au Canada, on a fait le choix de la diversité. On a fait le choix de l'immigration, donc ça vient avec des défis. Donc si ça vient avec des défis, il faut accompagner les organisations, et je pense qu'on parle de fondements, mais le défi actuel de l'EDI, c'est ça. C'est comment... il ne faut pas créer deux niveaux là, avec les multinationales qui ont les moyens ou bien les municipalités telles que la ville de Montréal qui peut se permettre de créer un poste de commissaire à l'antiracisme avec une grosse équipe en ressources humaines et des PME qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas l'équipe, parce que quand on parle de RH, faire de l'EDI avec une équipe de 5 employés et en faire avec 500 employés, ce n'est pas pareil. Je vous ramène juste aux données. Parce que les données, ça doit être confidentiel. Avec 5 employés, vous faites des questionnaires, on sait qui a répondu quoi. Alors qu'avec 500, on peut se permettre. Donc, c'est ça les défis, c'est ça les fondements. Mais pour les RH, mais ma conclusion, c'est que c'est plus qu'important. Maintenant, les entreprises au Québec, ce qu'on voudrait pour les PME, c'est que c'est de les outiller davantage. Est-ce qu'il faut mutualiser? Est-ce qu'il faut... Mais les secteurs et les comités sectoriels doivent trouver les moyens. Sinon, parce que là, ça fait 3 ans maintenant qu'on parle d'EDI. Et ce qu'on note avec la crise, c'est qu'il y a un tassement. C'est-à-dire, même il y a des organisations qui ont commencé des initiatives qui ont abandonné. Et beaucoup d'organisations, justement, quand l'EDI est revenu, ont dit non, on ne lâche pas là. Parce que là, c'est le moment opportun pour, les, par exemple, les groupes LGBTQ+, qui ont été pendant longtemps dans l'angle mort, et les personnes handicapées, ben, ces groupes-là ben, ne veulent pas lâcher parce qu'ils disent que c'est l'opportunité pour nous. Mais là, avec la crise qu'on va avoir, avec le manque de financement, ben, les paiements avec les questions de pénurie de main-d'œuvre, ils vont aller là où il faut aller. Donc, c'est ça l'enjeu. En fait, j'essaie juste de résumer, c'est qu'il y a deux niveaux quand même. C'est important, c'est pertinent, on n'a pas le choix. Mais attention à la double vitesse, là. Les grosses entreprises, les grosses municipalités qui ont les moyens d'y aller, qui font de l'EDI, et puis les PME qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'expertise, qui ne savent pas comment y aller, qui ont la volonté de le faire, mais qui finalement sont laissés à eux-mêmes. Et on parlait des lois, le gouvernement ne joue pas le rôle. Ne joue pas le rôle dans le sens où ben, la loi n'est pas parfaite, il ne donne pas les moyens, ben, à un moment donné, les gens vont abandonner. Et puis après, des groupes vont se retrouver dans l'angle mort de ces politiques-là. Et on va parler d'immigration. Il y a de gros lobbies qui poussent à ce qu'il y ait plus d'immigration. Je ne suis pas contre ou pour. Moi-même, je suis personne immigrante. Mais c'est d'équilibrer tout ça. Par exemple, quand on voit au niveau des autochtones, qu'est-ce qu'ils disent, les Premières Nations? Ils disent, ben, nous, on est là, on est prêts à travailler, mais on se rend compte que tout est fait pour les personnes immigrantes. Et au niveau des personnes immigrantes, on va dire, tout est fait pour les nouveaux arrivants. Qu'en est-il des deuxièmes, des troisièmes générations? Parce qu'on a des lobbies qui sont là, je le dis tranquillement, mais qui vont essayer d'ouvrir les vannes parce que ça les arrange. Et c'est comme ça qu'ils veulent. Ils veulent des immigrants temporaires parce que les immigrants temporaires, ça permet en fait de pouvoir mieux les contrôler sur le marché du travail. Mais la société est-elle gagnante là-dedans? Donc, si on ouvre le débat, c'est assez large. Donc, c'est pourquoi les groupes LGBTQ+, moi, en EDI, c'est ça que j'ai aimé, que les groupes LGBTQ+, ben, soient là et s'affirment et disent, ben, nous, on en a place dans ce débat-là et il faut y aller. Et donc, les PME, il faut les soutenir, en fait, en termes d'RH. Voilà. Je ne veux pas trop divaguer, mais je voulais quand même nommer les choses.
Non, super. Merci. Merci beaucoup. Tu nous donnes la perspective aussi aux différentes échelles, effectivement. J'aimerais ça vous lire un extrait d'un article de Technologia que j'ai ici. La diversité est un véritable accélérateur de croissance et de performance économique pour les entreprises. Selon une étude menée par Deloitte en 2017, un employé qui évolue au sein d'une structure pratiquant les principes de diversité, d'égalité, des chances, génère des revenus jusqu'à 30 % supérieurs. Les entreprises diverses sont donc plus rentables et se distinguent de leurs concurrents. Est-ce que les résultats de cette étude reflètent votre impression du milieu professionnel?
Je veux Olivia, oui. commencer, mais dans le fond, il y a une citation que j'aime beaucoup, puis malheureusement, je ne me souviens plus de qui l'a dit, là, mais la diversité, c'est une réalité, l'inclusion, c'est un choix. Dans le fond, la société, elle est diverse, dans le fond. Puis ça, c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé récemment en faisant le calcul rapidement, là, mais on s'entend que les hommes blancs, hétéros, sans situation de handicap, c'est une minorité, parce que là, on parle de genre un 70% d'un 50% d'un 90% d'un... Fait que là, on commence à arriver dans une réelle minorité. Et pourtant, même si c'est les personnes souvent les plus représentées. Donc, la diversité est une réalité, l'inclusion est un choix. Puis ça, il y a plusieurs études, vous citez Deloitte, ça ne m'étonne pas. J'avais vu une autre étude qui montrait à peu près la même chose. Puis là-dessus aussi, au niveau des bénéfices, il y en a... de partout. Déjà, au niveau de... C'est clair qu'on parlait tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre. Quand on parle, ça devient quelque chose qui est de plus en plus important pour les travailleuses aujourd'hui. Quand on va travailler, on veut pas juste un salaire à la fin de la journée. On veut justement, on parlait tout à l'heure de l'identité que ça nous donne. On veut un poste qui correspond à nos valeurs. Et ça, les études le montrent, notamment le fait que ça, c'était une étude de McKinsey en 2020 qui disait que 39% des candidats dans une situation d'embauche seraient prêts à quitter le processus d'embauche s'ils sentaient que l'entreprise n'était pas inclusive. Et même plus loin, une étude de Monster en 2022 au niveau de la génération Z, qui, je rappelle, se fera à peu près un tiers de la main-d'œuvre en 2030. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et donc, chez les générations Z, 3 diplômés sur 10 disent qu'ils ne postuleraient même pas dans une entreprise qui ne montre pas des aides d'initiative de diversité. Et une fois, si on parle même là en ce moment de l'intérêt de la diversité, équité, inclusion, ça c'est souvent je reprends une de mes une femme trans qui est à la tête de sa PME justement, et qui a dit: mais pour moi, la diversité, équité, inclusion, c'était pas quelque chose que je fais pour être gentille, pour être une bonne personne. Non, mais c'est juste moi, en tant que personne, femme entrepreneur à la tête d'un organisme, c'est juste la solution évidente. Puis elle a reçu d'ailleurs de plusieurs prix pour avoir reconnaissance de son EDI, parce qu'elle disait: mais moi, si j'ai un problème, puis que j'ai 10 personnes pareilles dans ma salle, là, les 10 personnes pareilles, elles vont me trouver une solution. Si j'ai 10 personnes différentes, elles vont me trouver 10 solutions. C'est juste mathématique, là, c'est plus avantageux. C'est ce que je voulais dire.
Super, merci. Marie-Isabelle, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?
Je peux parler de façon personnelle, parce que moi-même, quand je me sentais, j'étais au début de ma transition, il y a eu beaucoup de difficultés, parce que là, j'ai plus l'allure de l'homme, je veux porter une jupe, puis c'est comme non, tu peux pas, puis j'ai tellement de frustration que si j'avais pas le même niveau de coopération avec les autres, les performances. Fait qu'un coup, j'étais libéré. Mais c'est sûr que j'étais plus performant. Mm-hmm. Tu sais, quand tu te sens bien, accepté, supporté, j'ai de meilleures relations avec les gens, je suis heureux, j'ai le sourire, je suis content de travailler, je suis plus performant. Fait que de là l'importance de l'inclusion, de la diversité. Puis Vian parle dans son speech souvent, quelqu'un qui est homme, qui aime un homme, qui est amoureux d'un homme, ou une femme avec une femme. Ben, j'avais de Olivia qui en parle souvent, mais je l'aime ça. C'est comme, ben, t'arrives durant la semaine de travail, tu vas parler un peu de ton week-end, un peu qu'est-ce que t'as fait. Ben, si j'étais une femme, j'étais allé avec une amie. Ben, supposons c'est mon amoureuse. Ben, je vais-tu le dire, c'est une amoureuse? Ou encore, je vais dire, je suis parti avec un ami qui est un homme. C'est un ami. Je vais inventer des histoires, je vais faire toutes sortes d'entourloupettes pour pas parler de ma vraie vie. Ça devient une frustration, ça devient stressant. Je l'ai vécu, à un moment donné, comme homme, j'étais avec une femme. Après ça, comme homme, j'étais avec un homme, un monde gay. Fait que quand tu sors, tu fais quelque chose, tu fais une activité. Aujourd'hui, je suis une femme, si je sors avec une femme, es-tu amoureuse, amie? Tu sais, il y a toutes ces choses-là. De pouvoir être authentique au travail, sans tout dire les détails, mais c'est un bien-être qui aide à être meilleure, plus performante, de toute façon. Je pense que les compagnies ont intérêt à inclure la diversité.
Sans doute. Merci. Suleyman?
Ben, en effet, c'est comme on l'a dit, hein, je l'avais rappelé, la diversité est plus qu'importante dans une organisation. Ça permet à l'organisation, justement, d'évoluer. Mais surtout, quand on parle d'EDI, on a deux axes. On a la représentativité, donc il faut faire en sorte que l'organisation reflète la diversité. Et l'autre axe qui est plus difficile pour les organisations, c'est l'inclusion, c'est-à-dire créer cette atmosphère-là, cet environnement-là, où chacun se sent reconnu et valorisé. Et c'est quand chacun se sent reconnu et valorisé que la personne donne le maximum d'elle-même. Donc, ce qui veut dire qu'une organisation qui est représentative, on peut le voir des fois dans les centres d'appel où on va voir beaucoup de personnes issues de la diversité qui vont être sur le plancher, mais en haut, c'est tout blanc. Ben, on va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, en termes d'image, c'est-à-dire, en fait, les babines ne suivent pas les bottines, je ne sais plus comment le dire. Donc, il y a une sorte d'incohérence et les gens vont s'en rendre compte et vont partir. Donc, ça va être important d'agir sur ces deux niveaux-là, et c'est de créer des espaces inclusifs. Et créer des espaces inclusifs, ça prend ce qu'on appelle le leadership inclusif. Un leadership inclusif aussi bien au niveau des dirigeants qui vont fixer le cap en disant aucune forme de discrimination n'est tolérée, et que toute personne, qui qu'elle soit, elle doit dire qui elle est. Et tantôt, quand j'écoutais le témoignage, c'est que pour les personnes LGBTQ+, justement, un des enjeux, c'est, comme on dit en anglais, le coming out, c'est-à-dire dire qui on est. y a même une auteure américaine qui a écrit How to Become an Inclusive Leader. Donc, c'est-à-dire de permettre cet espace-là où la personne telle qu'elle est, justement, elle part en week-end avec son conjoint, sa conjointe, et elle n'a pas peur de le dire, et puis donc, il n'y a pas d'autocensure. Et ça, c'est de créer des espaces inclusifs. Et toute organisation qui croit que simplement en travaillant sur un des axes de l'EDI, c'est-à-dire la représentativité, elle a fait le travail. Non, elle est loin d'avoir fait le travail. Parce qu'il y a une autre dimension qui est très importante, qui est la dimension inclusive, où il faut travailler sur l'atmosphère et ce qui va jouer sur la santé mentale des gens, des travailleurs. Et si on ne joue pas sur cet axe-là, ben, c'est-à-dire, en fait, on n'avance pas. Et surtout, ce qui est important pour les organisations, c'est-à-dire, c'est en même temps. On ne va pas dire, ah, mais nous, on est en pénurie de main-d'œuvre, on va recruter à tout va, après, on va travailler l'inclusion. Là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur ces deux axes-là. Donc, travailler aussi bien sur la représentativité, refléter la société, et deux, ben, en même temps, travailler sur l'inclusion. Donc, ça va être parallèle et c'est ça qui permet d'avoir, et dans ce travail-là, c'est tantôt, c'est ça que je parlais, des zones de turbulence. Il y aura des conflits, il y aura du harcèlement, il y aura des micro-agressions. Et là, c'est de faire preuve de leadership dans le positionnement, c'est-à-dire dans la politique des ressources humaines, dans les politiques EDI, expliquer dans le onboarding et dire que ben il y a des choses qui sont acceptables, il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans cette organisation-là. Et c'est là qu'il peut, et puis se fixer en EDI aussi, on le dit souvent pour les organisations, il ne faut pas tout le temps être volontaire. Le volontariat est bien, mais il faut se fixer des objectifs aussi bien chiffrés, quantitatifs que qualitatifs, et des objectifs aussi sur le moyen terme, au moins 3 à 5 ans. On ne peut pas se fixer des objectifs en EDI d'un an et croire que ça va aller. Un plan d'action d'un an, ça ne fonctionnera pas. 3 ans à 5 ans. Et puis après, faire un retour en arrière, être représentatif, donner les personnes qui sont issues des groupes en quête d'équité la place, pouvoir parler, avoir le courage de dire des choses. Donc pour revenir au RH, par rapport à ça demande tout un engagement de l'organisation. Et si l'organisation, on ne peut pas faire... On ne peut pas jouer en double jeu. Si on n'est pas engagé, ça va se voir. Et comme les jeunes le disent, ben, ils vont partir. Les gens ne vont même pas rester, ils vont partir. Et en contexte de pénurie de main-d'œuvre, ben, quelle organisation prendrait le risque de faire ça? Je ne pense pas. D'autant plus que maintenant, les statistiques le montrent, 60% des futurs employés, c'est la génération X, Y, Z, c'est la génération Z. Et ils viennent avec des valeurs d'inclusion qui sont non négociables. Donc ça, c'est soit on est inclusif, soit ben, on disparaît, en fait. Voilà.
Merci beaucoup, Souleymane. J'ai bien peur de vous dire que c'est tout le temps qui nous reste aujourd'hui. Hein. La discussion a été fort intéressante et le temps est passé sous nos doigts. Donc, voilà, ça conclut notre premier épisode de Parole inclusive sur les fondements de l'EDI dans le milieu professionnel. J'aimerais remercier nos intervenants, Olivia Baker, Marie-Isabelle Gendreau et Souleymane Guissé. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé autant vos expertises que vos expériences personnelles. C'est très, très bienvenu. Merci beaucoup. Je salue aussi notre public ici qui a été très attentif et d'avoir assisté à cette discussion stimulante. J'espère que vous pourrez rester. On a d'autres discussions à venir au travers de la journée. Il y en a 3 autres. Alors, si vous voulez rester ou participer, laissez-nous savoir. Sinon, profitez du reste de la journée ici à Horizon. Et puis pour ceux qui sont en écoute, en rediffusion, à un prochain épisode. Ça m'a fait un grand plaisir d'animer Parole inclusive. Je suis Vanessa Neal. Merci beaucoup et à bientôt!